Bonsoir. L'épidémie à virus Ebola qui sévit au Nord Kivu et en Ituri depuis 10 mois a dépassé la barre des 2000 cas. Le ministère de la Santé, qui l'a annoncé dans un communiqué publié hier lundi, prévient que le risque de propagation d'Ebola reste élevé. Toutefois, la même source annonce également que certaines zones de santé viennent de passer 21 jours sans nouveau cas notifié. Comment analyser la persistance de cette maladie? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 4 juin 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Dr Justus Sio. Il est coordonnateur de la sous-coordination de la riposte contre Ebola à Butembo et ses environs. Dr Justus Sio, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Gracien de Saint-Nicolas Irachan, député national élu de Bouniaville dans la province de l'Ituri. Monsieur Irachan, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Edgar Matesso, premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Monsieur Matesso, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre à Bounia, dans la province de l'Ituri, sous la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La barre des 2000 cas de la maladie à virus Ebola vient d'être franchie au Nord Kivu et en Ituri, 10 mois après la déclaration de l'épidémie dans ces provinces. Le ministère de la Santé, qui l'a annoncé dans un communiqué publié hier lundi, prévient que le risque de la propagation d'Ebola reste tout de même très élevé et annonce toutefois que certaines zones de santé viennent de passer 21 jours sans nouveau cas notifié. Papi Martial Moukeba pour les détails.
Dans ce communiqué, le ministère de la Santé annonce que la barre des 2000 cas d'Ebola a été franchie dimanche 10 juin 2019 au Nord Kivu et en Ituri. Mais malgré les difficultés des équipes des ripostes à faire leur travail à cause de la situation sécuritaire, l'épidémie à virus Ebola continue à être contenue géographiquement, protégeant ainsi les restes du pays et les pays voisins, précise le communiqué. À ce jour, aucun cas d'Ebola n'a traversé les frontières de la RDC et l'épidémie ne s'est pas propagée dans les grands centres urbains les plus à risque, à savoir Goma, Bunia et Kisangani. Toutefois, le ministère de la Santé prévient que les risques restent élevés compte tenu des mouvements de la population. Depuis le début de l'épidémie, 22 zones de santé au Nord Kivu et en Ituri ont enregistré au moins un cas d'Ebola. À la date du 10 juin 2019, 9 zones de santé ont passé plus de 21 jours sans notifier de nouveaux cas confirmés. Il s'agit des zones de santé de Kiondo, Oicha, Kaina, Mutuanga, au Nord Kivu et Koma. Manda, Bunia, Rwampara, Nyakunde et Chomia à Ituri, rapporte le ministère de la Santé. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Merci Martial Moukeba pour tous ces détails. Docteur Justus Sio, vous êtes coordonnateur de la sous-coordination de la riposte contre Ebola à Butembo et ses environs. L'épidémie qui sévit au Nord Kivu et en Ituri depuis 10 mois a dépassé la barre des 2000 cas. Comment expliquer cette persistance de la maladie? Docteur Justus Sio, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois que nous l'avons perdu. La réalisation va essayer de le rappeler pour le mettre en ligne. On va prendre notre auditeur, notre invité qui est dans ce studio avec nous. Il s'agit de Gracien de Saint-Nicolas Irachan. Il est député national élu de Bouniaville dans la province de l'Ituri. La barre de 2000 cas a été franchie. Monsieur Irachan, quelle est votre analyse par rapport à cette situation?
Bon, en fait, je tiens d'abord à compatir avec toutes les familles qui sont éprouvées parce que le virus Ebola, c'est une maladie qui est vraiment dangereuse. Vous savez, dans ces barres de 2000 cas qu'on vient de franchir, en fait, c'est l'Ituri et le Nord Kivu. Mais on se félicite un peu, comme je suis de l'Ituri, que l'Ituri a enregistré et cas qui n'est pas vraiment grave. Donc chez nous, on est entre 25 et 30 décès. On ne dépasse pas 30 décès. Donc officiellement, on est dans les 25, bon, à part des cas isolés, parce qu'il y a eu des cas de décès qu'on assimile au cas du virus Ebola, mais ce n'était pas prouvé jusqu'à la fin. Par exemple, dans un petit centre qu'on appelle le Central Solenyama, où un bébé de 6 mois a perdu la vie. Bon, avec tous les signes, on a pensé que c'était le virus Ebola, mais sa maman reste vivante jusqu'à aujourd'hui. Donc on pense qu'il y a aussi des cas qui échappent un peu à la santé. Mais en général, nous, on ne dépasse pas 30 cas. Donc la plupart des cas se retrouvent au Nord Kivu. Donc, pour dire quoi, ce qui se passe à Ituri, au Nord Kivu, il y a des petites différences d'acceptation, mais aussi des groupes armés comme votre confrère l'a analysé. Vous savez, à Ituri, il y a moins de groupes armés qui sont en train de faire la résistance. Parce que vous savez, nous avons une grande partie de la forêt, bien sûr. Quand on voit Mandi Masid, là, c'est plus là où il y a des Maïmaï qui sont là. Et cet accès-là pose problème. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la zone de santé de Mandima continue à notifier des cas de virus à Ebola. Mais partout maintenant, en dehors de Mandima, qui est en frontière avec le Nord Kivu, on n'a pas de cas de virus Ebola parce que toutes les dispositions sont prises. Je tiens d'ailleurs à remercier l'équipe cadre des différentes zones de santé, en tête Dr Chulo, qui font beaucoup de travail. Mais vous savez, la situation du Nord Kivu, là où ça pose beaucoup de problèmes, c'est l'insécurité. Vous avez vu combien de cas, des fois, on a attaqué même de sites où il fallait faire les traitements d'Ebola. Donc, en Ituri, c'est pas les cas parce que Ituri, tout le monde a accepté d'adhérer à la prévention et à la surveillance. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en Ituri, nous avons moins de cas. Même pour le moment, il y a beaucoup, parmi les zones de santé que votre confrère a citées, il y a pratiquement 4 zones de santé ou 3 zones de santé où des Chomia, par exemple, des Komanda, des Bunia, où il n'y a aucun cas, des Ruapara, où il n'y a aucun cas, mais c'est seulement à Mandima où justement on est à frontière avec Nord Kivu. On continue à enregistrer certains cas.
Alors, merci. On me signale que le docteur Justus Sonsio est en ligne. Docteur, vous êtes là, vous m'entendez?
Oui, madame, je suis bien en ligne.
Alors, vous êtes coordonnateur de la sous-coordination de la riposte contre Ebola à Butembo et ses environs. 2000 cas atteints. Comment vous expliquez cette persistance de la maladie?
Oui, effectivement, madame. Le chiffre de 2000 cas annoncés fait peur parce que c'est quand même un pays, la RDC, un pays qui a une grande expertise quant à la gestion des épidémies de la maladie à virus Ebola. Et il faut dire que cette épidémie ici du Nord Kivu et en Ituri, c'est la deuxième maintenant sur le plan mondial et la première en RDC en termes de nombre de cas et en termes de durée dans l'espace. Comment expliquer? Je pense que mon prédécesseur, le co-débatteur, vient d'en parler un peu. C'est le contexte dans lequel cette épidémie a sévi. Ce qui est d'abord vrai, c'est que l'épidémie a sévi à l'est du pays pour la première fois, où les personnels de santé et les prestataires ne s'est pas habitués ou préparés par rapport à la gestion de cette maladie. Et deuxièmement, le contexte sécuritaire. Le contexte sécuritaire, comme a dit, nous sommes dans un contexte ici au Nord Kivu, à Butembo et ses environs, où on a plus d'une cinquantaine de groupes armés qui sont très actifs. Aussi, pendant que cette épidémie a été déclenchée ici à Butembo et ses environs, c'était dans une période électorale où certains messages n'ont pas favorisé l'adhésion et l'acceptation au niveau des communautés. Mais voilà, donc ces éléments-là font en sorte qu'on puisse expliquer les chiffres de 2000 cas qui ont été atteints, mais lorsqu'on analyse correctement les courbes épidémiques, nous remarquons que les tendances des 4 dernières semaines sont les bonnes, parce qu'effectivement, depuis l'attaque qu'il y a eu le 19 avril, qui a paralysé les équipes de riposte pendant environ 10 jours, il y a eu un pic, mais après ce pic, les équipes se sont correctement préparées et mises en place des stratégies pour riposter correctement. Et de plus en plus, nous avons vu et nous remarquons une diminution de nombre de cas. Et cette diminution de nombre de cas où on avait en moyenne, pour la sous-coordination des Butembo, 15 cas par jour, mais nous sommes passés de 15 à 5 cas par jour, ou de 80 à 40 cas la semaine. Et aussi, on avait des problèmes en termes de décès communautaires. On avait beaucoup de décès communautaires parmi les cas qui sont confirmés. Mais maintenant, on est passé de 60 à 35% en termes de proportion des cas de décès communautaires. Mais aussi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les taux de guérison qui s'est amélioré. Donc, c'est vrai que nous avons atteint dépassé le cap 2000 cas. C'est vrai. Mais si les conditions sécuritaires sont rassurées, je pense que les équipes sont encore à bon et nous pouvons aller de l'avant pour arrêter cette épidémie.
Alors, dans le communiqué du ministère, on peut lire, malgré les difficultés des équipes des ripostes à faire leur travail à cause de la situation sécuritaire, l'épidémie à virus Ebola continue à être contenue géographiquement. Si l'épidémie continue à être contenue géographiquement, comment vous expliquez alors que l'on puisse que le nombre puisse augmenter, puisque vous avez déjà contenu la maladie géographiquement.
Madame, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Effectivement, il faut expliquer un peu. Lorsque les attaques arrivent, les groupes attaquent les équipes de riposte, il y a une période où les équipes ne travaillent pas. Et lorsque les équipes ne travaillent pas, parce que le travail de l'équipe, c'est entrer dans les communautés, chercher les cas confirmés, pouvoir les amener pour les traitements et éviter les contaminations dans la communauté. La paralysie du travail dans les communautés fait en sorte que les malades qui sont dans la communauté puissent contaminer davantage de personnes. Et ça dépend à quel niveau, à quel seuil, à quel pic où il y a les attaques. Si vous avez deux cas dans la communauté, la contamination sera faible que par rapport si vous avez 50 cas dans la communauté. Et lorsque vous regardez la dernière attaque du mois d'avril, elle faisait suite à une attaque au mois de février des centres de traitement qui avait paralysé. Donc au mois d'avril, on était en plein pic où on était vraiment avec 80-50 cas la semaine. Et en ce moment-là, cette pic-là a frappé et les équipes n'ont pas travaillé pendant environ 10 jours. Mais les cas ne se sont pas déplacés. Donc nous avons eu plus de cas dans les mêmes zones, mais nous n'avons pas eu des cas qui quittent d'un lieu vers un autre. Plusieurs mécanismes ont été mis en place. D'abord, une très bonne communication, une communication à base des comités locaux que nous avons mis au niveau des cellules et au niveau des villages, qui rassure et qui donne la confiance aux personnes qui sont en contact pour ne pas se déplacer. Et en les rassurant, on leur dit, d'abord, si vous allez très loin, vous n'allez pas trouver les structures de prise en charge, et plutôt vous venez au niveau des structures de prise en charge, vous avez la chance de guérir. Deuxièmement, il y a les points de contrôle, entrées et sorties, qui sont mis aux entrées et sorties des foyers, qui sont très bien organisés, qui sont couplés aux équipes d'ambulance. Et avec la communication et la prévention contrôle, ces équipes-là font en sorte que les contacts restent confinés dans les mêmes zones de santé. De ce quoi, une autre stratégie, au niveau de la coordination générale qui est basée à Goma, nous avons mis en place un comité de suivi des contacts et des perdus de vie, ce qui fait qu'ils ont une vision globale des personnes qui quittent un lieu où il y a un foyer vers une autre ville, et il les contrôle et il les ramène. Donc, il y a vraiment une surveillance élargie qui retourne les contacts et qui font que l'épidémie soit continue. Donc, vous allez vous rendre compte que nous avons eu effectivement une augmentation en termes de nombre de cas, mais nous avons contenu l'épidémie. Ça, il faut féliciter les équipes et il faut féliciter les ministères de la Santé pour l'organisation parce que il faut regarder. Nous avons notre boussole qui reste la grande épidémie de l'Afrique de l'Ouest. 10 mois après, l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest partie de la Guinée, avait des forêts carrières à la Guinée, a atteint la capitale, a atteint 3 pays voisins, a atteint 6 pays, dont en Europe et aux États-Unis. Alors que nous, 10 mois après, nous sommes toujours dans 2 provinces. Merci. Et les grandes villes sont vraiment protégées.
Merci, docteur Justus Sion. On revient dans notre studio pour donner la parole à notre député Nicolas de Saint-Nicolas, Iracho. C'est vrai que la maladie a été contenue géographiquement, mais il y a tout de même ce risque-là, avec tout le mouvement de la population d'un coin vers un autre.
Évidemment, il y a un risque, vous savez, vous l'avez bien dit, parce qu'aujourd'hui, Nord Kivu et Ituri partagent une frontière commune et il y a une forte transaction commerciale. Donc, tous les jours, vous trouvez, il y a plus de 100 voitures qui naviguent et des camions qui naviguent entre le Nord et l'Ituri. Donc, ces mouvements de population font en sorte que normalement, l'Ituri pouvait aussi être vulnérable, donc tomber sous ces risques-là de contamination. Mais les autorités de l'Ituri ont travaillé à fond pour que ces virus n'atteignent pas Bunia, parce que on a installé les gouverneurs en tête, je le salue en passant, à Pacifique État, qui avait installé des points d'eau de lavage des mains partout à l'entrée de la ville pour sécuriser. Mais aussi, on a beaucoup travaillé avec les équipes cadres des zones de santé, et à travers les équipes cadres, on a travaillé avec les relais communautaires qui sont implantés parmi la communauté. Et ces relais communautaires étaient là pour sensibiliser les gens, surveiller. Parce qu'avec le virus Ebola, il faut beaucoup surveiller la population. On voit les différents signes. Et quand on voit qu'il y a un malade qui présente, et on a conscientisé les corps médicaux qui sont sur place de ne pas pouvoir paniquer. Donc il y a eu des formations grâce aussi aux partenaires qui étaient associés, notamment UNICEF qui s'est beaucoup associé avec OMS. Et donc, il n'y avait pas une panique généralisée. Au départ, on avait des paniques. Quand on voit quelqu'un saigner, tout le monde, vous pouvez l'abandonner. Mais maintenant, il y a une conscientisation et la population collabore avec les structures médicales, et ça fait en sorte que l'Ituri aujourd'hui est épargné. Mais il y a eu des cas comme ça.
Il y
a des cas, parce qu'il y a eu même une femme qui est décédée dans un centre médical à Ituri. Et on a déplacé son corps, ça partait au Nord Kivu, mais ça a été stoppé au niveau des commandants et on a enterré d'une façon sécurisée. Et ça, c'est un aspect positif aussi, parce qu'à Ituri, tous les corps de ceux-là qui sont décédés d'Ebola étaient sécurisés lors de l'enterrement, parce que la population avait collaboré. Donc, quand on voit tous les cas de décès à Ituri, il y a eu forte implication et suivi des recommandations pour que le virus ne se propage pas. C'était donc vraiment une force pour Ituri.
Alors, donc, c'est la sensibilisation qui a aidé à ce qu'on ait moins de cas dans l'Ituri.
La sensibilisation, parce que c'est pratiquement toutes les radios qui n'ont même plus posé de conditions de paiement de frais en rapport avec les messages de vulgarisation, mais tous les médias confondus, mais surtout les relais communautaires. Il y avait des gens, des crières qui passaient à travers les avenues partout pour dire aux gens, cette maladie elle est dangereuse, si ça nous atteint, nous sommes dans les risques. Donc cette sensibilisation, cette prise de conscience surtout, a fait en sorte qu'il y ait collaboration malgré la persistance, je le disais, vers la zone de santé de Mandima et Mandimacide, là où il y a des maïmaï et qui est à pleine forêt, qui a posé des problèmes. Mais je rappelle, par exemple, dans la zone de santé de Mambasa aussi, où on a failli avoir des risques parce qu'il y avait des pygmées qui vivaient dans la forêt, mais qui disent, mais comment vous allez nous interdire de manger la viande boucanée, pourtant nous vivons de ça. Mais après, quand on les a appelés, on les a conscientisés, ils ont fini par comprendre que c'était dangereux et qu'il fallait éviter. Donc, je pense qu'il y a un effort qui a été fait pour que cette maladie, ce virus ne se propage pas vraiment en Ituri.
Alors, selon vous, monsieur Gracien de Saint-Nicolas, pourquoi cette même sensibilisation ne semble pas marcher au Nord Kivu?
Attention, il y a des pratiques qui doivent évoluer. Vous savez que chez nous, à Ituri, nous mettons beaucoup d'accent sur la façon de traiter les maladies. Aujourd'hui, vous trouvez partout au Congo, il y a des charlatans, des gens qui disent qu'ils peuvent soigner des maladies et pourtant ils ne peuvent pas les faire. En Ituri, par exemple, la zone de santé ou les différentes zones de santé interdisent aux charlatans, à ceux-là qui disent qu'ils soignent n'importe quelle maladie, de pouvoir les faire n'importe comment. Parce que vous savez, quand les cas de Nord Kivu, par exemple, où vous trouvez, il y a des gens qui disent non, il faut prendre en charge les traitements d'Ebola. Et pourtant, ça ne peut pas se faire d'une façon locale. C'est une maladie internationalement reconnue qui n'a pas de remède au niveau de la médecine traditionnelle. Il y a donc cette médecine traditionnelle qui peut empêcher. Mais en plus de là, je note aussi qu'il y a les leaders communautaires. Quand vous avez un leader politique qui vous dit, par exemple, ne croyez pas à cette maladie. On l'a vu au Nord Kivu, où il y avait des leaders qui vous disent non, ne croyez pas à cette maladie, là c'est faux, on veut répandre des rumeurs pour que les blancs fassent ici ou cela. Non, c'est ça ce qui crée des résistances, parce que ce leader, quand il est écouté, automatiquement il y a ces problèmes-là. Quand vous avez des leaders qui communiquent avec des rebelles ou des groupes armés, qui vous disent non, mais cette maladie, on veut nous le transporter ici, et ça pose des résistances. Ou des leaders des confessions religieuses qui vous disent non, mais avec la prière, on va guérir les d'Ebola. C'est ça. Et nous, on a lutté en Ituri pour que ça ne se passe pas comme ça, parce qu'on a eu des autorités religieuses qui ont collaboré pour que ça ne se passe comme ça.
Merci, Gracien de Saint-Nicolas. Edgar Matesso, premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Votre lecture par rapport à cette situation, la barre de 2000 a été franchie. Comment vous analysez-vous cette persistance de la maladie?
Merci madame pour l'apport de la parole. Je présente également mes condoléances aux victimes de cette épidémie. 2000 personnes, 2000 cas se trouvent. Nous devons retenir que ce sont des êtres humains, des personnes. Et les facteurs de cette propagation, les facteurs de cette résistance sont nombreux. Et moi, j'ai essayé de les analyser et je les ai catégorisés, je les ai classés. À quatre. Le premier facteur, c'est le gouvernement. On sait du gouvernement qu'on sent un manque d'humanisme. Et vous allez voir, jusqu'aujourd'hui, les professionnels de la santé au niveau de Mbobeni continuent à réclamer leur salaire, ne sont pas bien traités. Et donc, dans ces conditions-là, vous verrez que ces gens ne vont pas aider les équipes de la riposte, surtout quand ils ne sont pas intégrés. Et vous allez voir également comment le ministère de la Santé considère les relais communautaires et les comités locaux. Leur traitement ne va pas dans le sens d'encourager les acteurs, surtout les relais communautaires qui sont engagés et surtout qui sont exposés. Parce qu'il y en a certains qui ont perdu leur maison, leur maison d'été incendiée. Il y a des IT, des infirmiers qui ont quitté les quartiers, qui sont obligés d'aller passer la nuit ailleurs à cause de l'insécurité. Et toujours dans ce même volet du gouvernement, l'insécurité qui persiste, on ne sent pas l'action de l'armée. On sent que notre armée est du côté de la défaite. Et pourtant, chaque fois qu'il y a attaque, on l'attribue aux groupes armés. Et ces groupes armés qui ne sont pas tracés. Et il persiste, il continue à créer de l'insécurité. Il y a des villages entiers qui sont sous le contrôle des groupes armés et où les équipes de la riposte ne peuvent pas savoir entrer. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est la justice. La justice congolaise crée une certaine ou développe une certaine impunité. Comment comprendre, madame? Des gens qui ont intoxiqué la population ne sont pas poursuivis, ne sont pas arrêtés. On les laisse vivre librement et pendant que les gens continuent à mourir. Comment comprendre? On a annoncé qu'on a arrêté les présumés auteurs de l'assassinat des docteurs. Et on ne les a jamais mis devant la justice, devant le tribunal. On n'a jamais organisé des audiences. Il y a des infirmiers qui ont été assassinés pendant cette période de la riposte, de l'épidémie, et sous prétexte qu'ils étaient en train de collaborer avec les équipes. Mais on n'a jamais organisé les enquêtes pour identifier les auteurs. Et ça va frustrer justement. Du côté de la riposte, là aussi, les équipes de la riposte vont développer une certaine rigidité. Je crois que c'est l'occasion que l'on puisse déblayer le chemin. La population a proposé certaines stratégies qui vont dans le sens de l'amélioration et de respect de leur vie de culture. Mais ça ne marche pas. Notamment, par exemple, la création de centres de transit dans chaque centre de santé le plus proche de la population. Il est vrai qu'il y a certains centres qui sont créés dans la zone de santé de Statua, mais ça ne suffit pas. Avec 18 centres aires de santé, je crois qu'on devrait avoir au minimum 18 centres de transit pour permettre à ce que la population qui a déjà une mauvaise connotation à l'égard de CTE, le centre de traitement Ebola, puisse être identifié dans la structure sanitaire où il a l'habitude de se faire soigner et qu'on fasse déjà les prélèvements à partir de là et qu'ils soient isolés à partir de là. Et on a même proposé qu'il y ait la formation des jeunes dans chaque avenue qui vont s'occuper des travaux, surtout les travaux qui semblent contestés, notamment la décontamination et les enterrements. On a voulu que cela soit rapproché aux jeunes. Mais ce n'est pas encore fait, ou c'est fait alors avec un grand retard. Et du côté de la population, c'est les quatre facteurs que j'ai évoqués. On sent que la population du Nord Kivu, contrairement à celle de l'Ituri, comme j'ai suivi mon collègue de l'honorable député, la population du Nord Kivu se laisse emporter par les intox, les rumeurs. Et ça, c'est justement à cause d'une série de frustrations qu'elle a connues au cours de l'histoire. Elle a senti une sorte d'abandon du gouvernement. Et je crois que ce serait le moment de chercher comment redonner la confiance entre le gouvernement et cette population qui se laisse souvent manipuler. Comment comprendre cette population qui voudrait que l'Ebola finisse à temps, mais entre-temps, elle continue à cacher les malades, elle continue à organiser des enterrements pendant la nuit, notamment en zone de santé des Katwa, et on continue à manipuler les corps.
Merci.
Et on continue à s'attaquer aux équipes, et donc ces facteurs ne peuvent pas permettre l'éradication rapide de cette épidémie.
Merci Edgar Mathès, on vous redonne la parole tout à l'heure. Docteur Justice Nsio, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Josué Aswani Kisulu depuis la ville de Bukavu. La persistance des maladies à virus Ebola est due aux divers facteurs. D'entrée de jeu, l'attaque observée à l'égard des centres de riposte, y compris ses agents, par des rebelles, ou bien que, à part être rebelles, sont également humains, ne sont pas exonérés de ce virus. Il est temps que les gouvernements, la population et la communauté internationale qui ne manifeste que son affection à l'égard de la République démocratique du Congo quand il est question des élections. Que tous forment un seul bloc en vue de mettre fin à ce fléau. Ce n'est ni la première ou la deuxième épidémie que la RDC a déjà connue. Comment se fait-il que le gouvernement a réussi à éradiquer les anciennes épidémies sans vaccin, alors qu'aujourd'hui nous avons tout un conglomérat de vaccins, de matériel nécessaire pour les éradiquer, tout également une certaine légèreté dans la mise en application des mesures et des réponses.
Docteur Justus.
Je pense que par rapport à cette question-là, je trouve que la vaccination, c'est quand même un des facteurs. Lorsque nous regardons les facteurs qui ont fait à ce que nous puissions contenir l'épidémie et que l'épidémie ne puisse pas aller effectivement en dehors, c'est aussi la vaccination. Là, je suis d'accord avec lui. Mais lorsque vous regardez, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on est autour des 130 000 personnes qui ont été vaccinées. Je pense que c'est un effort qu'il faut louer parce que les conditions dans lesquelles les équipes sont en train de travailler pour trouver ces contacts dans ces contextes d'insécurité doivent quand même mériter de remerciements et de salutations. Donc, la vaccination a suffisamment contribué pour que le nombre de cas de personnes ne soit pas aussi atteint, parce que lorsque vous comparez 10 mois après avec les autres épidémies, je pense qu'on aurait peut-être atteint plus de 20 000 cas. Lorsque nous regardons ce qui s'est passé, comme je disais, en Afrique de l'Ouest, je pense que à ce moment ici, on aurait peut-être atteint plus de 22 000 cas, alors qu'on est aujourd'hui rien qu'autour de 2 000 cas. Quant aux rebelles, moi je ne pense pas que ce soit vraiment un travail qui soit demandé au ministère de la Santé de pouvoir maîtriser les rebelles, mais je pense qu'avec la mise en place du comité multisectoriel sous la direction du Premier ministre avec le leadership du ministère de la Santé. Ces comités va mettre en place des activités qui puissent rassurer les équipes pour qu'on puisse travailler comme dans les 9 premières épidémies et maîtriser cette épidémie le plus tôt sera le mieux.
Alors Josué Hassan estime aussi qu'il y a comme une sorte de légèreté dans la mise en application des mesures contre la riposte.
Madame, je pense qu'il n'y a pas vraiment légèreté, sauf qu'il faut vraiment l'éprouver. Regardez les courbes. Chaque fois que les équipes ont la facilité de travailler dans un environnement serein, vous allez voir que le nombre des cas baisse. Et je vous ai montré, le plus important pour les ministères de la Santé, c'était de diminuer le nombre, de réduire, de limiter le nombre de personnes contaminées, et de confiner l'épidémie pour qu'il n'y ait pas extension. Et vous voyez très bien que le ministère est en train de répondre à cela. Et si vous regardez depuis 5 semaines, où ici à Butembo et ses environs, même dans les autres foyers, où, là où il n'y a pas d'attaque, regardez la courbe, le nombre des cas est en train de diminuer. Il suffit seulement de... Et cette diminution du nombre des cas n'est pas seulement due à une chose, pas seulement pour la vaccination, mais toutes les interventions mises ensemble, donc tous les piliers de la riposte mises ensemble. Madame, lorsque vous allez visiter nos équipes, vous allez voir que les équipes travaillent de façon organisée pour répondre à tous les problèmes et mettre des stratégies qui répondent à toutes modifications contextuelles selon les milieux. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire pour une ou l'autre thématique, que ce soit la prise en charge, que ce soit les enterrements sécurisés, que ce soit la communication. Vous savez, madame, il n'y a pas très longtemps, on a dit qu'il y avait mauvaise communication avec les communautés, il y avait mauvais engagement communautaire. Je pense que nous devons faire la différence entre l'engagement communautaire et les attaques des groupes armés. Nous devons vraiment faire la différence. Parce que si vous regardez aujourd'hui, presque dans tous les foyers, les communautés ont reçu le bon message, les communautés ont adhéré, mais les communautés ne peuvent, demandent même les activités de riposte, mais c'est plutôt lorsque les équipes de riposte descendent sur le terrain, ce sont les hommes en armes qui viennent attaquer. Je vois très mal une communauté venir avec une arme, toute la communauté, pour venir tirer sur les équipes de riposte. Mais c'est plutôt des personnes qui organisent.
C'est pourquoi vous ne voulez pas prendre en compte les stratégies que vous propose la population selon ce que le premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu nous a dit tout à l'heure.
Je pense que les équipes de riposte sont vraiment en train de prendre toutes les stratégies que propose la communauté.
Merci,
nous
docteur.
Nous avons mis en place, au niveau des villages, des comités locaux qui, en fait, communiquent directement avec les leaders et les autorités locales, les groupes de jeunes et toutes les couches pour écouter. On a organisé des dialogues, on a écouté l'air des hydratats et nous sommes en train de répondre à cela. Il a évoqué l'approchement des structures, des prises en charge d'Ebola vers les communautés. Madame, je pense que ça, c'est une des stratégies de la République démocratique du Congo, où les foyers, où les équipes de riposte ont toujours été mises proches.
Merci.
Des villages et des foyers qui sont touchés.
Merci, merci, docteur. Grand Gracien de Saint-Nicolas Irachal, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient, encore une fois, de Bukavu.
C'est qui le chemin de Bukavu aussi suivant. Étant donné que la riposte contre Ebola a déjà démontré ses limites, le mieux à faire en ce moment, c'est la redéfinition de la situation générale de cette résistance contre Ebola. J'ai comme l'impression qu'on est en train de tourner en rond avec comme conséquence la mort de nos compatriotes. À mon avis, si nous arrivons à la barre de plus de 2000 cas, la responsabilité est partagée entre les gouvernants, la population qui s'est laissée manipuler par certains politiciens qui ont profité de l'Ebola pour se faire élire, comme pour dire le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Je pense qu'on doit réfixer de nouveaux objectifs pour riposter contre Ebola, tout en s'inspirant des objectifs de la riposte qui n'ont pas été bien assimilés ou qui ont rencontré des obstacles dans l'opinion. La plus grande crime de cette riposte, c'est l'insécurité. Pour mettre un terme à cette dernière, on doit impulser un dialogue avec les Maïmaï et leurs mentors politiques et de la société civile afin d'empêcher les incursions qui prennent une allure d'infiltration des hôpitaux et des centres de traitement de l'Ebola.
Faut-il un dialogue avec les groupes armés pour aider les équipes de la riposte à bien faire leur travail?
Les dialogues, c'est toujours important. Il faut communiquer. Parce que vous savez, quand il y a un problème de résistance, parfois, c'est parce qu'il y a la communication qui ne passe pas. Je vous donne l'exemple de l'Ituri encore une fois. Nous, on a eu beaucoup de campagnes de masse de vaccination où les sites où il y avait des groupes armés ont accepté que les experts de santé aillent vacciner. Donc, la réalité du Nord Kivu, elle est peut-être tout autre. Effectivement, je donne raison à cet auditeur. Il y a des manipulations politiques exagérées, peut-être, au Nord Kivu. Parce que chez nous, tout, en Ituri, tous les groupes armés qui sont là, parce qu'ils sont 4, 5, 6, acceptent à ce que pendant la période de vaccination, qu'on aille vers ceux qui ont besoin des médicaments. Parce que même eux peuvent être affectés aussi par ces virus Ebola et ils peuvent mourir. Donc, ils ont intérêt à collaborer. Mais notre auditeur a raison de dire qu'il y a un problème politique. Parce que c'est vrai, il faut pas le cacher, il y a une défaillance politique au niveau de l'État congolais où on accorde moins d'importance pour la santé. Vous vous imaginez que récemment, c'est presque partout où il y a des manifestations contre les gouvernements congolais qui ne payent pas des primes de risque des médecins et des infirmiers. Madame, c'est parce que vous n'êtes pas du corps médical. Moi, je suis aussi en formation de médecine parce que d'ici là, je suis médecin. Je vous dis ce qui se passe avec les corps de santé. C'est terrible. On devrait leur donner cet argent pour qu'ils sachent travailler, mais ça ne se fait pas. Notre gouvernement a une très mauvaise volonté pour pouvoir encadrer le secteur sanitaire. Donc, quelque part...
Mauvaise volonté ou manque de moyens?
Ce n'est pas le problème des moyens. On est en train de construire des villas ici, on vole de l'argent, on fait n'importe quoi. En fait, il faut beaucoup, si on veut que les pays puissent se développer, il faut mettre de l'argent. Je vous donne l'exemple des États-Unis. Quand il y avait suspicion d'un seul cas d'Ebola, à l'époque avec Sierra Leone, c'est tous les pays qui étaient mobilisés. En Europe, c'est tous les pays qui étaient mobilisés. Mais chez nous, 10 000 morts, 2 000 morts aujourd'hui avec Ebola. Bon, c'est normal, on est à Kinshasa, tout se passe normalement. Donc, quelque part, les ministères de la Santé, et surtout nous, législateurs de l'Assemblée nationale, nous devons affecter beaucoup de budget dans le secteur santé pour que nous puissions effectivement contraindre cette maladie et prendre au sérieux ce qui se passe sur le terrain, bien collaborer avec les corps médicaux.
Merci, Gracien de Saint-Nicolas. Edgar Matesto, on va prendre aussi pour vous cette réaction.
La riposte est contestée. Actuellement présente un niveau d'ambiguïté considérable. D'un côté, le gouvernement congolais montre son haut degré d'expertise et se félicite des avancées positives de cette riposte. De l'autre côté, l'équipe de la riposte se voit incapable devant cette épidémie. C'est contradictoire. N'y a-t-il pas une anguille sous roche? Si oui, qu'il y a crainte des propagations, le ministère de la Santé est dans l'obligation d'associer des experts étrangers et tout faire pour persuader la population locale, afin d'associer cette dernière dans cette riposte. Dans le cas contraire, il serait difficile, voire impossible, d'éradiquer ce virus. Sans oublier l'insécurité qui prévaut dans cette partie du territoire congolais.
Alors, Edgar Matesso, la ligne de cet auditeur n'était pas très, très bonne. Il nous appelle depuis Isangi, sûrement quel problème de réseau. Est-ce que vous avez suivi un peu sa réflexion? Il demande à ce qu'on puisse associer des médecins étrangers pour pouvoir aider la RDC à éradiquer cette maladie.
Oui, j'ai suivi presque à demi-mot ce qu'il était en train de dire, mais j'ai retenu l'essentiel. Je crois que ici, pour les cas de stress, il n'y a pas incapacité des équipes de la riposte. Je crois que le problème est du côté du ministère de la Santé, qui n'a pas encore défini une bonne politique d'encouragement d'équipes qui sont sur le terrain, et même du côté du ministère de la Défense, qui ne sait pas protéger effectivement les équipes qui sont sur le terrain. Parce que comme on a suivi les coordonnateurs, il était en train de démontrer que justement quand il y a une certaine sécurité, les équipes savent défendre sur le terrain et ils peuvent être à mesure de diminuer le nombre de cas. Et je crois qu'il faudra souligner un aspect. Ou alors, au Congo, il y a une justice où il n'y en a pas. Parce que c'est qu'on vit au Nord Kivu, ça ne peut pas se passer dans aucun pays de droit. Ou alors, il n'y a pas de justice et on considère que tout ce qui se passe, les gens sont exposés inutilement. Vous imaginez, on a brûlé la maison des relais communautaires, il n'y a aucune enquête, on n'arrête personne. Et les relais continuent à vivre comme cela. Mais allez voir ce que le ministère propose comme encouragement de ces relais sur qui repose toute la riposte.
Alors, et allez voir comment... Edgar Matheso, oui. Aujourd'hui, les Nations Unies ont mis en place une structure qui va travailler pour créer un environnement qui facilite le travail de ceux qui travaillent contre Ebola. Est-ce que c'est un moyen aussi pour une solution pour pouvoir éradiquer cette maladie?
Bon, toutes ces stratégies sont bonnes, mais je crois que la plus grande résolution, la plus grande stratégie, c'est la sécurisation de la région. Et la justice pour tous ceux qui commettent des dégâts, tout ce qui intoxique la population et tout ce qui empêche les équipes à bien travailler. Et je crois que justement cette stratégie devra aussi renforcer le comité multisectoriel et ce comité multisectoriel devra focaliser son attention non seulement sur la santé mais aussi sur la sécurité et sur le développement du milieu. Et bien sûr, le milieu qui est resté presque abandonné à ce strict sort depuis longtemps et ce qui crée des frustrations dans le chef de la population qui continue à proposer de grandes résistances.
Merci. Docteur Justus Nsio, donc si on comprend bien, la grande difficulté aujourd'hui, c'est la situation sécuritaire qui vous empêche de bien faire votre travail.
Oui, madame, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, la RDC est reconnue avec ses compétences et ses capacités, mais lors de cette épidémie, la RDC n'est pas seule. La RDC est appuyée avec plusieurs autres expertises des autres pays. Les équipes, après plusieurs attaques, ont bénéficié d'un suivi psychologique et les équipes ont le moral très fort aujourd'hui. Je pense que si
votre
on assure
conclusion.
La sécurité correctement,
mm-hmm.
Oui, mais si on assure sérieusement la sécurisation des équipes sur terrain, je pense que les stratégies ont été mises en place en fonction du dialogue communautaire qui, au fait, a fait ressortir les besoins des communautés. Comment est-ce que les communautés voudraient qu'on puisse travailler avec elles?
Merci.
Donc, aujourd'hui... Merci.
Merci, docteur. Gracien de Saint-Nicolas Iratchon, votre conclusion.
Ma conclusion est tout simplement qu'il ne faut pas qu'on puisse tomber dans les pièges où cette maladie à virus Ebola devienne tout simplement un fonds de commerce. Parce que vous savez, il faut faire en sorte que ça finisse vite pour que les gens puissent vivre d'une façon aisée. Parce que les grands problèmes, c'est la bonne gouvernance. Il faut la volonté politique, il faut mettre de l'argent dans la surveillance épidémiologique. Il faut bien surveiller, que ce soit en Nord-Kivu, que ce soit en Ituri, il faut investir dans la recherche scientifique parce qu'on a toujours besoin d'avoir des nouveautés d'actualité dans la recherche scientifique, mais il faut surtout prendre aussi en charge les paiements de primes, les primes des agents de santé qui sont en train de risquer leur vie pour bien pouvoir travailler dans ces domaines-là. Donc, la volonté politique, elle est la première pour que la vaccination politique prenne fin.
Merci, Gracien de Saint-Nicolas Irat. Edgar Matheso, un mot pour conclure.
Je suis d'accord avec la volonté politique. Je voudrais aussi insister sur le renforcement de la justice. Bien aussi, je reviens sur l'adaptation des équipes de la riposte aux difficultés de la région et considérer surtout les personnels de base pour éradiquer cette maladie.
Merci Edgar Matheso, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.